Bonsoir à tous et bienvenue sur OxyFoot avec un léger retard. Prière de nous excuser, votre rendez-vous hebdomadaire de football en Occitanie. Je suis Quentin Marais et je suis très heureux de vous retrouver pour la 9e édition d'OxyFoot déjà. Une édition un peu spéciale entre Zoom sur une discipline particulière et tirage au sort de la Coupe d'Occitanie que l'on pourra suivre avec un envoyé spécial de Footpi. Alors pour m'entourer ce soir, deux personnes du côté de Footpi. On continue 2018 avec Xavier Bedos qui est avec moi. Bonsoir Xavier.
Bonsoir à tous. Bonsoir Quentin.
Comment ça va?
Je suis en train en même temps d'envoyer un texto au correspondant de Footpi.
À Gilles
Galinier qui va nous donner les résultats et le tirage tout à l'heure avant 20h.
Exactement, voilà. Ce sera dans ces eaux-là qu'on contactera Gilles pour savoir un petit peu plus sur ce 16e de finale de Coupe d'Occitanie. Xavier, battu la semaine dernière par Nabil Taïder au quiz, on verra ce soir s'il corrigera le tir. Hein. On verra.
Ouais, d'un petit point.
D'un petit point.
18 questions, voilà. J'étais pas habitué.
Pour démarrer. Et à ma droite, un invité. Il est à l'origine de l'International Futsal Cup qui a lieu les 27 et 28 janvier prochains à Toulouse. Mais il est aussi au sein du club de l'UJS Toulouse. C'est Baptiste Duprat qui est avec moi. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous.
Alors on précise que ce tournoi est également organisé conjointement avec Yacine Touil qui n'a malheureusement pas pu nous rejoindre ce soir. Mais vous êtes donc bel et bien deux à l'origine de ce tournoi.
C'est ça exactement. En fait, on est donc deux à travailler vraiment sur le tournoi en plus de notre activité au club. Et autour de nous, il y a tous les bénévoles aussi qui participent au développement du tournoi avant, pendant et après le tournoi.
Alors, on aura l'occasion d'y revenir pendant une interview un petit peu plus longue. Mais avant, messieurs, un petit tour sur les résultats en Occitanie ce week-end avec vous, Xavier Bedos. Qu'est-ce qui s'est passé sur les terrains occitans?
Bien, on peut dire que déjà, alors il y a eu beaucoup de matchs reportés suite aux intempéries. Donc voilà, mais bon, il y a pas mal de matchs quand même qui ont pu se dérouler, notamment Rodez qui recevait Grenoble dans un match un peu au sommet. Et là, ça y est, ils se font rattraper, ils commencent à faire la course en tête et ils viennent de perdre 2-0 face à Grenoble, ce qui fait que au niveau du championnat national, eh bien Rodez s'est fait rattraper, il se retrouve à la troisième place au goal average, mais bon, la saison est encore longue.
C'est la défaite contre le Red Star qui a un petit peu été
oui,
symbole d'une...
En fait, ça va très très vite, puisque le championnat est très serré.
Oui, c'est très homogène.
Homogène.
On perd trois matchs, on peut se retrouver quasiment relégué.
Là, ils viennent de faire deux défaites d'affilée, donc forcément, ils se sont fait rattraper. Mais bon, je crois qu'on en est à la moitié, presque moitié saison. Donc je pense que, bon, en fait, tout est... Ils ont une grosse équipe, Rodez. Hein. Ils viennent de recruter d'ailleurs un joueur supplémentaire là au Mercato. Donc voilà, il suffit qu'on ait un ou deux blessés, mais j'ai pas trouvé d'effectif pour que peut-être on ait des moins bonnes performances. À National 2, Colomiers continue son bon parcours. On peut noter que le match donc qui joueront en Coupe de France contre Sochaux, malheureusement se déroulera en semaine. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur Footpi, et donc ça se déroulera un mardi soir, oui. On vous communiquera
mardi
la date.
23 janvier.
Un petit point négatif, parce que les clubs amateurs ont besoin, justement, qu'on va loin en Coupe de France, d'avoir la possibilité de jouer au moins un week-end pour remplir, faire venir du monde au stade et tout. Et bien là, malheureusement, ça sera une semaine, un mardi soir. Donc c'est pas le top. Et ce week-end, ils ont joué contre Paulin Pézenas et ils ont encore gagné 1-0. Alors c'est tout le temps à l'arraché.
Mais ça passe.
Mais ça passe et ils sont en route pour l'accession aussi et retrouver le niveau national qu'ils avaient perdu il y a 4 saisons, je crois. National 3, alors là, on avait reçu Nabil Taïder lundi dernier avec ce derby qui devait se dérouler mais qui a été reporté, donc Rodéo Blagnac. La défaite de Luzonac chez lui face à Fabregas et le TFC aussi qui perd Amanda. Et la remontée, la bonne remontée de Castanet, qui était dans les derniers. Et donc là, ils remontent, ils viennent de battre à l'Est 3-1. Coucou à Coco Duchesne, le coach. Et Balma, aussi, qui se place confortablement au milieu de tableau, avec sa victoire face à Agde, 2-1. Juste un petit mot pour la Gambardella, puisque ce week-end, c'était la Coupe de France des jeunes. D'ailleurs, il y a eu une petite histoire à Saint-Denis, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Avec Amiens.
Avec Amiens. Oui. Donc, c'est quand même pathétique de courser des joueurs en fin de match. Hein. Comme ça, c'est vu.
C'est encore plus pathétique de le filmer et que ça se retrouve sur Facebook. Ça aussi, ça l'est encore.
Malheureusement,
plus.
Maintenant, il y a du vicieux. Pour et du contre et tout est filmé. Alors, ça va servir certainement à la commission de discipline. Je pense que Saint-Denis va charger, comme on dit dans le jargon un peu. Mais c'est tout à fait normal parce que là, c'est plus possible. Quoi. On s'en sort plus. Donc, la Gambardella, Clermont a battu Balma, un but à zéro. Rodez-Colomiers, 2-2. Dans un petit derby régional avec la victoire donc de Rodez au tir au but. Tarbes qui perd chez lui face à Mérignac. Et Castres, face aux Girondins, ils ont pris une petite tannée avec 14-0.
Ah oui, pardon. C'est pas pareil.
Et le TFC qui est allé battre pour 6-0.
5-0.
Ah oui, pardon, 5-0. Tant pour moi. Voilà. Juste un petit mot pour la division d'honneur. Maintenant, on ne va pas faire toutes les divisions, mais la division d'honneur avec la course en tête, toujours là pour Toulouse Métropole, le club de Freddy Ouvray, qui viendra, il m'a promis qu'il allait venir ici dans Oxyfoot. Donc, ils ont gagné 3-0 Revel. Muret a fait la bonne opération en gagnant Auch après la déconvenue du week-end dernier en Coupe d'Occitanie. Et Rodez qui a battu la Lanterne Rouge 1-0. Donc au classement, Métropole premier, Rodez second et Lourdes troisième avec 2 matchs en retard. Voilà.
Merci beaucoup Xavier pour ce point complet sur les résultats d'Occitanie ce week-end. Et donc ce soir pour la 9e édition d'Oxyfoot, on change complètement entre guillemets de discipline. C'est toujours avec le ballon rond, il faut toujours marquer dans les buts mais la surface n'est pas la même. C'est le futsal qui est à l'honneur et pour cause la 2e édition de l'IFC au Petit Palais des Sports de Toulouse. Ce sera les samedis 27 et dimanche 28 janvier prochain. Ça concerne la catégorie U10 et donc pour en parler avec nous, un des organisateurs de cet événement qui a parfaitement fonctionné puisque l'aventure continue, c'est Baptiste Duprat. Alors, à l'inverse de Nabil Taider, qui était à votre place la semaine dernière, on vous connaît beaucoup moins. Beaucoup de mystères hein, pour cette 9e édition. Alors, est-ce que voilà, vous pouvez, dans un premier temps, vous présenter, parler de votre parcours dans le monde du ballon rond, avant d'arriver à l'UJS ?
Alors, donc, pour ma part, j'ai joué au foot dans le 64 pendant plusieurs années. Et en fait, je suis arrivé à Toulouse pour les études. Et c'est là que j'ai découvert en fait l'UJS Toulouse. Donc, je connaissais déjà le foot en salle parce que j'en avais fait dans le 64. Et j'ai intégré le club de l'UJS Toulouse il y a maintenant 3 ans et avec ce projet de tournoi également qui était déjà dans les cartons quand je suis arrivé et qu'on a mis en place petit à petit, donc la première édition qui a eu lieu l'année dernière et cette année en fait on réitère l'expérience avec une nouvelle édition un peu plus ambitieuse.
Alors Baptiste, vous l'avez dit, vous officiez également à l'UJS qui est monté cette année en première division et vous êtes le premier à nous parler de cette discipline qui est le futsal. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur ce sport qui bat son plein, hein, notamment pas loin de chez nous, puisque c'est en Espagne et au Portugal où c'est devenu une vraie discipline nationale ?
Alors le futsal, en fait, c'est un sport qui se joue sur un terrain de handball. On joue à 4 joueurs plus un gardien. C'est une discipline où à contrario du foot, c'est beaucoup plus rapide. Disons que les transitions entre attaque et défense sont vraiment rapides et nombreuses. Et aujourd'hui, ça allie beaucoup la technique et aussi la tactique, surtout en haut niveau. Voilà, quand on descend dans les niveaux, il y a plus de la technique prend plus le dessus sur la tactique. Mais voilà, quand on arrive en première division, on assiste finalement en fait à des combats entre les coachs, un peu comme ce qui se passe au hand avec des systèmes sur les phases arrêtées notamment, que ça soit sur des corners, sur des coups francs. On a toujours des combinaisons qui sont travaillées. On a aussi des systèmes qui sont mis en place en phase offensive, en phase défensive pour contrer l'adversaire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs qui se jouent au haut niveau, en tout cas sur de la tactique.
Alors, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer dans ce futsal ? C'est le fait de connaître un petit peu la discipline avant ou par curiosité ? Qu'est-ce qui vous a motivé ?
Alors, moi, je connaissais la discipline, donc j'ai découvert en UNSS quand j'étais au lycée. Par la suite, en fait, j'ai créé un club de foot en salle donc, du côté de chez mes parents dans le 64. Et donc quand je suis arrivé à Toulouse, j'ai voulu trouver en fait un club de foot en salle et je suis arrivé à l'UJS Toulouse. Et voilà, ça m'a donné envie parce que, ayant fait du foot pendant de nombreuses années, quand j'ai découvert le futsal, j'ai découvert quelque chose de nouveau qui demandait vraiment pas du tout les mêmes caractéristiques. Et finalement, voilà, pour des joueurs qui jouent au foot des fois où ils touchent pas forcément beaucoup le ballon, ou des fois ils sont en attente sur certains postes, là au foot en salle, ça va très vite, on touche souvent le ballon et on est tout le temps en mouvement. Et voilà, des fois c'est sur des phases de jeu, on va jouer 3-4 minutes à fond, mais voilà, c'est un effort qui est différent et c'est ce qui, moi, me plaît, et c'est ce qui plaît de plus en plus aussi aux joueurs.
On rappelle qu'il y a des joueurs qui ont fait le sens inverse. Wissam Ben Yedder, qui était très très bon joueur de futsal avant de passer à 11.
Alors, ce qui est paradoxal avec le futsal, c'est qu'on peut être peut-être un très bon joueur de futsal et rien faire au football à 11, comme on peut être un très bon joueur de football à 11 et être pas terrible au futsal. Moi, je me souviens, la première fois où j'ai regardé vraiment ce sport, une fois, on avait été faire un petit stage avec mon équipe en division d'honneur. Là, on était parti en Espagne et on avait joué donc au futsal. Mais c'était il y a 20 ans et on n'était pas du tout habitué, notamment avec le ballon dégonflé et de la manière dont ils jouaient. Parce que, si vous voulez, nous, on faisait des passes intérieur du pied, extérieur, tout ça, mais c'est pas du tout adapté au ballon, à la surface et à la rapidité, parce que faut beaucoup faire de contrôle avec la semelle, on frappe même avec la pointe souvent, et donc les caractéristiques même techniques sont complètement différentes du football en règle générale. Et le joueur qui m'a donné envie de m'intéresser à cette discipline, c'est peut-être le meilleur du monde, mais il doit le connaître, c'est Falcao, la star qui lui est un phéno, non seulement par son agilité technique, mais c'est peut-être l'un des seuls joueurs au futsal qui est très fort en un contre un, parce qu'on croit qu'au futsal c'est technique et on peut dribbler, etc. Mais il n'y a pas tant de dribbles que ça, en fait. C'est souvent des 1-2, des petites combinaisons, comme il le disait, pour déstabiliser les défenses. Il faut aller vite, être technique, et souvent ça se joue à 1-2 touches de balle, pas plus.
Aujourd'hui, c'est vrai que le futsal, un bon joueur de futsal, c'est d'abord un joueur qui est intelligent et qui voit les choses avant l'adversaire. C'est voilà, il y a des déplacements qui se font. Des fois, on va voir un joueur qui va se déplacer à côté du poteau. On comprend pas pourquoi, et en fait, il va couper une trajectoire, mais parce que il a déjà vu que son coéquipier va lui faire comme ça. Donc voilà, ça demande beaucoup de vision de jeu, et il faut beaucoup réfléchir aussi et travailler les systèmes. Mais aujourd'hui, voilà, Falcao, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Bon, aujourd'hui, il joue plus, il est à la retraite. Mais voilà, il y a des joueurs qui font plus le spectacle que d'autres. Mais c'est vrai que des fois, on retient pas forcément, en fait, le joueur le plus technique. On retient le joueur qui a fait la passe, qui a ouvert le but, en fait, qui a ouvert le but à son coéquipier. Et ce qu'on sait peu, c'est qu'en Espagne, par exemple, des joueurs comme Iniesta, comme Fernando Torres, c'est des joueurs qui ont commencé au futsal et qui, en fait, leur apprentissage a commencé d'abord par le futsal avant le foot, et qui sont après venus au foot. Et ce que disait aussi Ben Yedder, c'est que c'est très compliqué. Il y a eu aussi Youssef El Arabi qui était à Caen. C'est très compliqué, en fait, de passer du futsal au foot, notamment en termes de repères sur le terrain, parce que les déplacements sont pas du tout les mêmes. Les caractéristiques demandées et requises pour devenir professionnel au foot sont pas les mêmes qu'au foot en salle. Et c'est vrai que au tout départ, il y a un temps d'adaptation qui est important, parce que voilà, quand on est sur un terrain, faire des appels sur un terrain de foot, c'est beaucoup plus grand. Il y a beaucoup plus de joueurs, donc ça demande pas vraiment les mêmes caractéristiques, et il faut un temps d'adaptation. Et bon, on voit quand même, ça se passe bien. Par exemple, pour Ben Yedder, ça se passe bien, ça s'est bien passé pour El Arabi aussi, et dans le futur, ça va bien se passer aussi pour d'autres joueurs.
Et Falcao, par exemple, n'a jamais fait de carrière foot à 11. Pourtant, il avait été sollicité, parce que quand on voit ce joueur, on se dit, mais c'est pas possible. Vite, je le prends, quoi. Je vais le faire jouer. Bien non, ça passait pas, parce que, on le dit, déjà, les courses sont beaucoup plus longues au football à 11, et t'as des joueurs qui sont un peu plus feignants que ça. Ils veulent pas faire 40 appels pour toucher le ballon que deux fois. Donc, alors, dans le futsal, il le touche souvent, et quand on a la maîtrise technique et une bonne protection de balle, on peut vraiment s'en sortir dans ce sport. Moi, je voudrais savoir si, par exemple, est-ce que les joueurs là en Ligue 1, ils en vivent? Alors, il y a combien de clubs vraiment pro, quoi, hein, pas semi-pro.
Aujourd'hui, en France, en tout cas, les joueurs je vais parler plutôt des joueurs français. Les joueurs français n'en vivent pas. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que bon, déjà, il y a beaucoup de disparités en termes de budget sur les clubs. Moi, je vois voilà, les clubs à Toulouse, que ce soit nous, que ce soit Bruguière. Aujourd'hui, on est sur des budgets nettement inférieurs à des clubs comme Toulon, à des clubs comme Nantes ou aux clubs de la région parisienne, parce que c'est des clubs qui existent depuis autant de temps que nous, voire moins. Mais derrière, voilà, ils ont structuré la chose. Ils ont beaucoup de partenariats. Des fois aussi, il y a un fort soutien de la mairie. Par exemple, je pense à Montpellier et Toulon. Ben, par exemple, Montpellier, cette année, il joue que au Palais des Sports, en fait, là où le hand joue. Donc, c'est des grosses affluences, c'est des salles avec 6-7 000 personnes. Et ils ont même eu l'occasion d'aller jouer à l'Arena à Montpellier. Je crois qu'il y a une salle où il y a 11 000, la capacité, c'est 11 000 personnes à peu près. Donc, ils ne remplissent pas les salles encore, mais ils ont l'appui de la mairie qui permet aussi de se développer, qui permet aussi, ben, par rapport à des partenaires. À des partenaires privés en fait, d'avoir des financements. Et aujourd'hui, les clubs font beaucoup appel à des étrangers qui sont rémunérés, mais les joueurs français, c'est très compliqué. La plupart n'en vivent pas. Ceux qui jouent en équipe de France, il faut savoir, voilà, ils vont jouer en équipe de France comme ça, mais quand ils vont en équipe de France, je pense à un truc tout bête, mais par exemple, ils doivent rendre les équipements à chaque fois quand ils jouent en équipe de France. Donc, ils en récupèrent après quand il y a des nouvelles collections qui sortent. Mais c'est un sport qui est encore amateur. Les joueurs français, il n'y a pas vraiment de structure. On dit qu'on joue en Ligue 1 de futsal, mais ça n'a de nom que la Ligue 1, parce qu'il n'y a pas de structure professionnelle. Et aujourd'hui, nous, je vois, par exemple, on accueille les matchs, on joue dans une salle de 250 personnes. Aujourd'hui, qui n'est pas digne d'un club professionnel comme le championnat veut l'être en fait à terme. Mais voilà, sur des budgets, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, Toulon, c'est des budgets à entre 200 et 300 000 euros.
D'accord, c'est aujourd'hui, un budget de club de 500 licenciés, quoi, de club de DHR, oui. Par exemple.
C'est ça, voilà. Donc aujourd'hui, la fédération met beaucoup de moyens pour développer le futsal. Il y a l'équipe de France qui vient de se qualifier pour l'Euro, là, qui commence dans une dizaine de jours. C'est la première fois et la fédération, en fait, c'est la première fois qu'ils font un vrai pas avec un vrai plan d'action pour le foot en salle et qui va permettre peut-être d'amener une professionnalisation. Ça va peut-être aussi éliminer des clubs parce qu'il y a des clubs aujourd'hui qui sont plus ou moins structurés où on tient beaucoup avec des bénévoles, mais il n'y a pas forcément de salariés. Et aujourd'hui, il y a peut-être des clubs qui n'ont pas les reins assez solides pour devenir professionnels, même si la fédération tend.
C'est pas télévisé le championnat.
Alors non, c'est pas télévisé en direct, mais par contre depuis cette saison, la fédération en fait a un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Dailingen et qui chaque week-end en fait il y a des jeunes qui viennent filmer les matchs et qui sont diffusés sur une plateforme et après sur YouTube vous pouvez retrouver les résumés des rencontres. Les clubs ont accès à l'intégralité de la rencontre, toutes les actions, tous les buts et il y a un résumé qui est fait après pour le grand public. D'accord.
Alors, pour revenir sur cette IFC 2018, c'est la deuxième édition. Donc, et pour organiser ce genre d'événement, disons qu'il faut gagner une sorte de crédibilité, entre guillemets, que ce soit pour attirer les clubs que vous avez réussi à faire venir, hein, Montpellier, l'OM, les Girondins, Tottenham, ou bien même pour convaincre la ville de vous attribuer le gymnase. Alors, quelle a été votre stratégie pour franchir tous ces obstacles qui sont de taille tout de même ?
Alors, il y a deux choses. Pour attirer les clubs, voilà, on a contacté les clubs directement, en fait, comme toute personne pourrait le faire, en fait, soit c'est sur des rencontres de tournois auxquelles on a participé ou alors où on s'est déplacé, soit directement on a appelé au club en présentant notre projet et en ayant contact avec soit le responsable des tournois, soit le responsable de la catégorie. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir aussi échanger par les réseaux sociaux. C'est une vraie force pour nous, c'est-à-dire qu'on peut avoir les éducateurs en direct et après soumettre en fait l'invitation au tournoi. Donc voilà, sur les clubs français, c'est un peu plus facile d'accès, on va dire. Sur les clubs étrangers, c'est vrai que cette année, on a vraiment voulu avoir un club de chaque grand championnat, ce qu'on a réussi à faire. Voilà, on aurait aimé avoir un club allemand aussi qu'on n'a pas eu. Mais voilà, aujourd'hui, on passe par les moyens qu'on a, donc c'est réseaux sociaux et aujourd'hui des mails au club avec des contacts qu'on arrive à récupérer par des personnes comme on peut.
Ça a marché en tout cas pour la première édition qui a eu, le hasard du calendrier fait que ça a été un an jour pour jour, le 15 janvier 2017, le premier grand rendez-vous, la première édition. Alors, comment est-ce que vous aviez abordé ce moment charnière, un peu de pression, d'excitation, les deux, j'imagine ?
Là, c'est plutôt une phase de... La première année, c'était de la découverte pour nous. Donc vraiment, quand on a lancé ça, on est parti avec Yacine un soir, on s'est appelé, on s'est dit, là, c'est le moment de lancer. En une nuit, on a déjà travaillé sur plein de trucs. On avait fait le logo, l'affiche est sortie aussi très rapidement. Et c'est vrai que c'était un peu fou au départ. On y croyait, nous. On a réussi aussi à convaincre la mairie de nous laisser, comme vous le disiez Quentin, le petit palais des sports qui, pour nous, c'était évident qu'on devait recevoir les équipes dans un cadre professionnel et dans un joli cadre au centre-ville de Toulouse avec une capacité d'accueil qui était beaucoup plus importante que dans notre gymnase. Et c'est vrai que la découverte est terminée. Aujourd'hui, nous, notre idée, c'est de confirmer et de faire grandir encore plus le tournoi. Aujourd'hui, on veut pérenniser le tournoi sur plusieurs années. Donc cette année, on a un peu évolué, on a augmenté le nombre de clubs. On est passé on a essayé d'avoir un plateau encore plus complet et riche. Et on espère aussi qu'il y aura beaucoup plus de monde qui viendra que l'année précédente.
Alors pour rappel, c'est l'US Torcy qui a remporté le tournoi principal et les Girondins le tournoi secondaire. C'est aussi le charme d'une telle compétition. Il y a des grands noms, mais tous peuvent prétendre à la victoire finale. Torcy en est l'exemple.
Tout à fait. Alors Torcy était passé par une phase de qualification l'année dernière. Donc on avait organisé une phase de qualification sur Toulouse et une phase de qualification sur Paris avec un club partenaire. Et donc Torcy avait gagné cette phase qualificative. Ils sont venus après le 15 janvier au tournoi final et là ils ont résisté à tous les clubs professionnels et notamment en finale où ils battent Montpellier. Donc Torcy avait une génération, vraiment une belle génération, comme souvent d'ailleurs parce que c'est un club très formateur où il y a beaucoup de joueurs professionnels qui sont sortis de Torcy. Je pense notamment au niveau du TFC, Christopher Julien vient de l'US Torcy par exemple. Donc c'est un club qui est formateur, on sait qu'ils ont des très belles générations. Cette année, ils reviendront, on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que ça apporte un charme. Et nous, on n'est pas sur la course de dire on aimerait qu'un club professionnel gagne. Au final, la première année a prouvé que finalement, les clubs amateurs avaient aussi leur place et aussi leur chance face à des clubs professionnels. Et je pense notamment au TAC, qui au final, le TAC fait une finale face aux Girondins de Bordeaux sur le tournoi secondaire. Donc ça veut dire aussi que sur Toulouse, il y a un bon vivier de joueurs et qu'il y a des possibilités aussi pour les clubs amateurs de se faire de bons résultats sur ce tournoi-là.
Alors, juste les clubs là, professionnels, pardon, les clubs professionnels, style Montpellier, les Girondins, tout ça, est-ce qu'ils ont une section vraiment futsal ou est-ce que c'est des jeunes de U10 qu'on dit tiens, il y a le tournoi futsal là, ils prennent les meilleurs et puis ils y vont?
Non, alors ils n'ont pas de section futsal, c'est la section foot qui vient.
C'est la section foot.
C'est la section foot en fait, mais ce qui se passe notamment aux Girondins de Bordeaux, il y a eu un reportage d'ailleurs sur Beansport il n'y a pas très longtemps, les Girondins de Bordeaux ont mis en place en fait avec leur catégorie, à l'approche de l'hiver, ils vont en fait pratiquer le futsal, donc en vue de notre tournoi, mais pas que. Et donc tous les hivers, on voit qu'en fait, les jeunes de Bordeaux et d'autres clubs le font aussi, pratiquent le foot en salle pour leur faire découvrir une autre pratique. Et c'est vrai que l'hiver, pour les enfants, c'est mieux parce qu'ils sont à l'intérieur. Les parents, ça les arrange parce que les enfants, ils rentrent, ils sont tout propres. Donc c'est vrai que c'est un côté aussi ludique pour les enfants. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de club qui vient avec une section foot salle vraiment.
Alors la décision de repartir à l'aventure pour cette deuxième édition, est-ce qu'elle s'est prise de façon imminente juste après le tournoi ou est-ce qu'il y a quand même eu une période de réflexion ?
Oui, c'était une vraie volonté pour nous en fait de faire une deuxième édition. Comme je disais tout à l'heure, la première édition c'était un test. Pour nous, on a été satisfaits. Il y a forcément des choses qui ont moins bien fonctionné. Et pour nous, en fait, cette deuxième édition c'est juste une progression et une façon de corriger ce qui n'allait pas sur la première année. Donc aujourd'hui, nous, on est constamment en fait en train de travailler pour améliorer ce tournoi-là et je peux même vous dire que on réfléchit déjà en fait à l'édition suivante parce que voilà on se dit on essaie toujours de trouver des moyens de proposer mieux et que ça soit aux gens qui viennent et que ça soit aussi aux enfants qui participent à ce tournoi-là.
Alors samedi prochain, c'est le grand jour, samedi et dimanche, 6 pays représentés, 18 équipes. Alors il y a du beau monde au programme, on compte déjà 6 clubs présents en Ligue 1, dont le TFC. Il y a aussi Arsenal, Séville, Inter Milan, Charleroi. Ça nous promet deux jours de haute intensité, ça tout de même.
Tout à fait, oui. Alors on a beaucoup de nouveaux clubs. On a eu la volonté de reconduire tous les clubs français, parce que pour nous c'est important d'avoir le TFC, d'avoir Montpellier, d'avoir Marseille également, et Bordeaux, parce que c'est des clubs qui sont du Grand Sud, on va dire. Et pour nous, c'est une vraie volonté déjà d'avoir ces clubs-là, parce que c'est des clubs français, c'est des clubs qui sont connus dans le championnat de France. Et je pense que c'est important aussi de garder un ancrage final régional, même si c'est très large. Si on va de Bordeaux à Marseille, ça reste large. Mais c'est important aussi de ne pas oublier d'où on vient. C'est des clubs qui nous ont fait confiance la première année. Donc voilà, on sait qu'ils ont confiance en nous. Donc nous, on les réinvite cette année-là. Et comme je disais tout à l'heure aussi, on a eu la volonté d'ouvrir le tournoi à d'autres pays. Donc cette année, on a un club espagnol, on a le FC Séville. C'était une vraie volonté. On a réussi à les faire venir. On a aussi un club belge, Charleroi. Donc ça nous ouvre en fait des portes sur plusieurs pays. Et c'est vrai que on a vu qu'en fait le tournoi l'année dernière, on avait une équipe portugaise. On avait le Sporting Portugal qui sont carrément venus en fait en avion avec des supporters. Ils sont venus, je crois qu'il y avait une cinquantaine de supporters. Ils ont mis l'ambiance toute la journée. Donc c'est vrai que pour nous, c'est bien de s'ouvrir international, mais voilà les clubs qui nous ont fait confiance et les clubs français. Donc voilà, on a un beau plateau cette année. On espère qu'il sera encore plus riche l'année prochaine, mais cette année, on est vraiment très heureux du plateau qu'il y a.
Alors pour le tournoi de qualification Nord, il y avait 15 équipes engagées, 18 pour celui disputé dans le Sud. Il y a une certaine attractivité quand même qui s'est installée derrière ce tournoi.
Alors sur le tournoi Sud, on a dû refuser des clubs parce que les clubs de Toulouse, même de la région de Montpellier, veulent vraiment participer. Voilà, cette année, on avait Rodez par exemple, on a eu Burel qui est un club de Marseille donc qui a remporté justement le tournoi de qualification. Voilà, sur Toulouse, on a pas mal de clubs qui participent. Il y a eu Albi aussi qui a participé. L'an dernier, c'était Albi qui avait gagné le tournoi de qualification. Cette année, ils se sont inclinés. Mais il y a une vraie attractivité, en tout cas sur Toulouse et aujourd'hui jusqu'à Marseille, Montpellier. Donc on est vraiment content de ça. Et sur Paris, c'est vrai que l'année dernière aussi, c'était la découverte parce qu'on ne savait pas vraiment s'il y avait des clubs qui étaient intéressés pour participer. Ça a été une réussite l'an dernier. On a même eu des clubs du nord de la France qui sont venus. Et cette année encore, ça a été une vraie réussite. On a, voilà, le club qui a organisé l'année dernière a organisé encore cette année-là. Il y a des clubs qui sont revenus au tournoi de qualification. Et donc voilà, aujourd'hui, on a un nouveau club qui est qualifié. On verra, mais voilà, c'est un club de la région parisienne. Mais il y a une certaine attractivité en région parisienne où le futsal est beaucoup plus développé que ça soit sur Toulouse ou dans le sud.
Alors pour cette deuxième édition, 18 équipes engagées, divisées en deux poules de 9. L'an dernier, nous avions 4 poules de 4 équipes. Alors le format sera différent. Comment sera agencée la suite du tournoi?
Alors l'idée sur le tournoi, en fait, c'est qu'on a on a choisi de faire deux poules de 9 parce que comme le tournoi se déroule sur deux jours, l'idée c'était que déjà les clubs rencontrent un maximum de clubs professionnels et que les clubs se rencontrent entre eux. Et ça nous permet aussi à la fin du samedi de dire qu'en fait, il y aura encore du suspense parce que rien ne sera joué le samedi soir et le dimanche matin quand il y aura encore les matchs de poule, des clubs qui sont un peu détachés auront la possibilité, parce qu'il y a encore un certain nombre de matchs, de se qualifier. Donc ça apporte une certaine attractivité et ça permet aussi aux enfants le samedi soir quand ils vont rentrer, que ça soit dans les familles d'accueil ou à l'hôtel, de se dire on n'a pas tout perdu, on peut encore le faire le lendemain. Donc c'est vrai que c'est un choix qu'on a fait. C'est une formule un peu particulière avec deux poules de neuf, mais voilà, encore une fois, c'est un test, c'est une évolution. On verra comment ça fonctionne cette année et on avisera pour l'année d'après.
C'est des matchs de combien?
Alors, ça sera des matchs de 10 minutes.
D'accord, pleine.
Oui, 10 minutes, il n'y a pas de mi-temps. Voilà.
D'accord.
Alors justement, vous en parliez, Baptiste, au niveau des familles d'accueil d'hôtels, c'est un détail qui a son importance. Tout de même, comment se déroule l'accueil des équipes? Comment est-ce qu'elles sont logées? On rappelle déjà la différence majeure par rapport à la première édition, c'est qu'elles se déroulent sur deux jours. Donc là aussi, peut-être, il y a dû faire quelques réajustements.
Alors, il y a une certaine logistique, c'est vrai. L'année dernière, on avait fait appel à des familles d'accueil. On avait eu aussi la chance d'avoir un hôtel en partenaire qu'on a encore cette année, donc c'est l'hôtel Ibis qui est partenaire du tournoi, qui nous permet une certaine réduction dans les chambres pour surtout les éducateurs et également pour les familles qui souhaitent venir. En fait, on a un tarif préférentiel pour les familles qui veulent venir voir leurs enfants et qui viennent de loin. Elles peuvent dormir à l'hôtel pour un tarif avantageux. Et sinon, aujourd'hui, on fonctionne beaucoup avec les familles d'accueil. C'est ce qui se fait dans beaucoup de tournois internationaux. Donc, on a les familles d'accueil de notre club, de l'UJS Toulouse. Mais, par exemple, pour prendre l'exemple l'année dernière, les familles des jeunes du TFC ont accueilli en fait les jeunes du Servette de Genève. Et ce qui s'est passé, c'était totalement inattendu pour nous. C'est-à-dire que pendant tout le long du tournoi, les jeunes du Servette de Genève et du TFC en fait se sont encouragés. Et on a même vu sur un match, les jeunes du TFC qui marquaient un but et qui sont allés en fait voir les jeunes du Servette de Genève. Et c'est vrai que c'était une super image parce qu'ils se sont pris dans les bras alors qu'ils sont finalement ils étaient adversaires. Mais voilà, et il y a eu ces moments-là parce que les familles d'accueil apportent ça. Ça s'est très bien passé l'année dernière. Cette année, on renouvelle l'expérience. Mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué de trouver des familles d'accueil. On a la chance d'avoir des clubs comme le TFC, comme d'autres clubs partenaires qui sont prêts à accueillir les enfants. Donc c'est vraiment une force pour nous et heureusement qu'on a ça.
La difficulté, c'est ça. C'est-à-dire que de plus en plus, avant, on pouvait faire des tournois à l'étranger, etc., et aller dans des familles et tout. Mais depuis quelques années, en fait, les parents au sein même des clubs ne veulent pas trop que leurs enfants ils soient hébergés par quelqu'un et tout. C'est pour ça que ben, ça coûte cher aux clubs, aux petits clubs, d'amener leur équipe en Espagne, en Italie ou en Hollande, faire des tournois comme c'était il y a quelques années, parce qu'on ben, est obligé de prendre l'hôtel. Ils demandent, non, moi, mon fils, il ne va pas dans une famille d'accueil qu'on ne connaît pas. Donc, moi, soit il y va et vous dormez à l'hôtel, soit moi, je laisse pas partir mon fils. Et ça, c'est de plus en plus rare. En fait, c'est, je crois que, et ce qui est génial, en fait, c'est ce que vient d'expliquer, c'est-à-dire que les enfants, le foot, ça a besoin de, comment dire, de connexion, de partage, de découvrir les autres, de découvrir des nouveaux clubs comme ça. Les petits Suisses, ben, ils connaissent les Toulousains maintenant. Après, je sais pas, les Espagnols, ils vont connaître d'autres. Et on fait de bonnes rencontres. Et surtout, c'est très intéressant. Et je trouve que il y a de plus en plus de clubs qui facilitent ça et qui occultent cette méthode-là pour accueillir les enfants, et je trouve que c'est une très bonne idée.
C'est vrai qu'on a la chance vraiment d'avoir, en tout cas sur la région toulousaine, d'avoir des clubs qui nous aident et des familles qui accueillent ça. Et c'est vrai que sans ça, je pense qu'aujourd'hui le tournoi ça serait compliqué parce que financièrement on pourrait pas accueillir tout le monde à l'hôtel. Donc voilà, c'est vraiment une force et heureusement qu'on a en fait ces clubs toulousains qui nous aident, notamment le TFC et d'autres clubs qui sont sur Toulouse qui nous aident à accueillir tous ces enfants.
Alors, question pratique, maintenant au niveau des horaires, quand est-ce que commencent les premiers matchs? Quand est-ce qu'il faudra se rendre au Petit Palais des Sports pour ne rien rater de ces deux jours de tournoi?
Le plus tôt possible. Non, le tournoi commence le samedi à partir de 9h, donc les premiers matchs auront lieu à 9h, il y aura une cérémonie d'ouverture, et après les premiers matchs commencent à 9h30 si je ne dis pas de bêtises, et le samedi soir ça devrait finir vers 18h, et le dimanche, mêmes horaires, donc 9h, le tournoi devrait finir le dimanche un peu plus tôt à 17h, 17h30. S'il n'y a pas de retard.
Et on rappelle que le tenant du titre est l'US Torcy et que l'UJS Toulouse engagera bien évidemment une équipe. Merci Baptiste pour ces explications. Merci. Sur peut-être une supplémentaire.
Alors, je vais juste rajouter quelque chose. En fait, oui. Le tournoi aussi, il a une vocation humanitaire et c'est ce qui nous guide aussi en fait, pour le reconduire chaque année. L'année dernière, on a fait un projet humanitaire suite à ce tournoi, donc suite aux recettes du tournoi. On a demandé aux clubs professionnels et aux visiteurs en fait, de nous amener des tenues sportives et des fournitures scolaires. Donc les clubs ont vraiment bien suivi, je pense notamment à l'Olympique de Marseille qui nous a ramené des tenues, qui nous a ramené vraiment beaucoup de choses. Donc l'année dernière on a envoyé toutes ces fournitures, on est allé les ramener directement dans un village au Maroc. Cette année on travaille avec l'association Sans Frontières de Nisrine Daoudi qui est maintenant à Montauban et qui est une ancienne joueuse du TFC. Et on travaille avec son association pour en fait renouveler ce projet humanitaire. Donc il y a aujourd'hui des clubs qui vont également participer. Les visiteurs qui viendront peuvent aussi nous ramener. En fait, il y aura un stand qui sera dédié où on peut déposer que ça soit des vêtements de sport, que ça soit donc des maillots, des shorts, des crampons, des chaussettes, et également des fournitures scolaires parce que il y a le sport. Ça permet aussi aux enfants, que ça soit sur le continent africain ou ailleurs, de pratiquer le sport. Mais il y a aussi tout le côté scolaire aussi où ils ont des manques. Et c'est vrai que on essaie chaque année d'aider un village en fait où il y a des besoins. Et aujourd'hui, grâce à Nisrine Daoudi, en fait, ça va nous permettre de toucher encore un nouveau village et de mener à bien ce projet humanitaire.
Voilà, une belle cerise sur un très beau gâteau, messieurs. Alors, juste avant de passer au quiz, notamment, avant quelques questions, bien sûr, pour Baptiste, je vous propose une petite pause musicale, une musique choisie par notre invité, c'est Slide de Calvin Harris.
slide on the slide. Whatever comes, comes to a click. Do you slide on all your nights like this? Do you try on all your nights like this? Put some spotlight. This jewelry ain't no use when it's this dark. It's my favorite part. We see the lights that got so far. It went too fast. We couldn't reach it with the arm. Wrist on the wrist, a link of charms. Laying real still, a link of parts. Like we could die all young. Like we could die all blind, huh? If we could see in 2020. Twice we could see it till the end.
Put that spotlight on her face.
Spotlight.
Put that spotlight on her face. We gon' pipe up and turn up.
Pipe up.
We gon' light up and burn up.
Burn up.
Mama too hot like a.
Like what?
Mama too hot like a furnace.
Furnace.
I got a 100 G's, I'ma go, y'all.
G's.
My diamonds gon' shine when the lights dark.
Shine.
You and I take a ride down the boulevard.
Yeah.
And your friends really wanna break us apart. Ooh. Good Lord. Good gracious,
hey.
Staring at my diamond while I'm hopping out of spaceships. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the paparazzi flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walking my mansion, 20,000 painting Picasso. Bitch, you be dipping, dabbing with niggas like a nacho. Took off a pen and diamond, dancing like Rick Ricardo. She having it, with the color, working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass, that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, bitch, I'm out of it.
Do you slide on all your nights like this? Try on all your knives like this. Put some spotlight on the slide. Oh yeah. Whatever comes, comes to click. Do you slide on all your knives like this? Do you try on all your knives like this? Put some spotlight on the slide. Whatever comes, comes to click.
C'était Slide de Calvin Harris sur Occitanie, première musique choisie par Baptiste Duprat, notre invité. Messieurs, avant de repasser pour le coup à quelques questions pour Baptiste qui seront beaucoup plus faciles, je vous rassure, pas de questions pièges. Bien, figurez-vous que nous avions également un œil ce soir sur le tirage au sort de la Coupe d'Occitanie. Les affiches des 16e de finale sont connues. Alors, vous le connaissez sous le nom de Gilles Galinéus sur Footpi. C'est Gilles Galinier qui a suivi ce tirage pour nous et il est en ligne avec nous. Bonsoir, Gilles. Alors, Gilles, qu'a réservé ce tirage au sort de 16e de finale?
Voici un peu les affiches. On va dire de suite qu'il y a une grosse affiche en DH avec Luc. Ça va être peut-être encore l'occasion d'avoir une DH sautée, puisqu'au tour précédent, il y en a 4 qui ont déjà été éliminés. Après, tous les autres représentants de DH vont se déplacer. Est-ce que tu veux le détail?
Oui, allez-y, allez-y.
Donc, Auch va se déplacer à Argel, donc 4e division de la Ligue Midi-Pyrénées. Golfech, aussi autre représentant de DH, va se déplacer à Lille-en-Dodon. Donc, c'est aussi un match pour Golfech qui semble assez abordable. Rodez va se déplacer chez le Petit Poussé, c'est un club du Lot Montcabrier, c'est un club qui carbure en excellence mais qui va donc recevoir la réserve de Rodez. Et enfin il y a le Giroud qui n'a pas encore tout à fait joué son 32e de finale à cause des arrêtés municipaux. Ils ont un match en retard à Bressol qui joueront dans 8 jours, et ils se déplaceront, s'ils arrivent à passer, à Rangueil, qui est aussi un petit poussé donc d'excellence Haute-Garonne.
Eh bien Gilles, merci beaucoup d'avoir suivi pour nous ce tirage au sort de 16e de finale de Coupe d'Occitanie plutôt. Eh bien on vous souhaite une bonne soirée, peut-être à très bientôt dans les studios d'Oxyfoot, Gilles.
Mais oui,
merci
mais...
beaucoup, bonne soirée.
Oui, bonsoir Gilles, et apparemment tu veux pas venir dans les studios.
Je veux pas te dire quoi, Xavier?
Tu veux pas venir dans les studios, pourtant t'es invité.
Ah mais oui, mais là c'est mieux parce qu'ici il y a un cocktail.
Ah d'accord, okay.
Donc tu sais que...
Je me doute, ils vont tous là-bas à cause des cocktails. Voilà. Merci Gilles.
Merci beaucoup Gilles, à bientôt.
Allez, bonne soirée.
Et on rappelle justement, voilà, le petit lapsus, qu'il reste un club de N Colomiers, N2, je vais y arriver, qui donc recevra Sochaux en Coupe de France. On le rappelle, voilà, un très très gros parcours de Colomiers, autant en championnat qu'en Coupe de France. Donc voilà, le point sur les 16e de finale de Coupe d'Occitanie. Alors avant de passer au fameux quiz, justement, Baptiste, je me retourne vers vous, puisque voilà, nous avons l'habitude de faire quelques petites questions tac au tac, beaucoup plus faciles, voilà, selon la réponse ou la personne qui vous inspire le plus. C'est à vous de répondre. Donc, okay. Alors Baptiste, pour démarrer, Pep Guardiola ou José Mourinho?
José Mourinho.
Didier Deschamps ou Zinedine Zidane?
Zinedine Zidane.
Vicente Del Bosque ou Marcello Lippi?
Oula. Del Bosque.
Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo?
CR7, bien sûr.
Andrea Pirlo ou Xavi Hernandez?
Andrea Pirlo.
Jérémy Jeannot ou Stéphane Ruffier?
Ah, c'est très dur. Pour un supporter stéphanois, c'est très dur. Jérémy Jeannot.
Bafé Gomis ou Ilan?
Ilan pour son but face au PSG.
La bicyclette, la fameuse. Christophe Galtier aurait-il dû rester à Saint-Étienne?
Oui.
Barça ou Real?
Real, évidemment.
OM ou PSG?
Ah, là, c'est dur. PSG.
Bayern ou Dortmund?
Dortmund.
Rugby ou basket?
Rugby.
Tennis ou hand?
Tennis. Évidemment.
Federer ou Nadal?
Très dur. Nadal, plutôt.
Thé ou café?
Café.
Chocolatine ou pain au chocolat?
Chocolatine.
Pizza ou McDo?
Pizza.
Mer ou montagne?
Mer.
États-Unis ou Australie?
États-Unis.
Italie ou Espagne?
Je vois la prochaine question arriver. Italie.
Blonde ou brune?
Je la voyais pas comme pas ça. brune.
Alors, si vous deviez coacher une équipe de Ligue 1, à part Saint-Etienne?
À part Saint-Etienne, je dirais Amiens.
Et la France, est-ce qu'elle peut gagner cette Coupe du Monde?
Bien évidemment.
Bon, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Baptiste. On va tout de suite passer au quiz, messieurs, le fameux. Alors, Xavier, pas de surprise, il n'y a que 10 questions cette fois-ci. Wow. 10 questions pour le quiz. Voilà, Baptiste. Hein, pour, oui, bien sûr. Ah. Bien sûr. Il faut un adversaire. Il faut un adversaire pour oui. Xavier. 10 questions, messieurs. Bien évidemment, rapidité, si vous pensez avoir la bonne réponse, vous dites votre prénom. Alors, la première question pour démarrer. Marco Verratti a pris un peu de gras. Qui c'est qui a prononcé cette phrase?
Thiago Silva?
Non.
Pierre Ménez?
Non.
C'est un joueur du PSG?
C'est un joueur du FC Nantes qui a prononcé cette phrase.
Ah, c'est Salah?
Non.
Rongier? Non.
Oui, ah, exactement. Ouais. Rongier. Bien joué, Baptiste. Au micro de Canal Plus Sport, l'homologue du gras italien a déclaré « Je suis peut-être un peu plus fit que lui. J'ai vu qu'il avait pris un petit peu de gras. Ça doit être un bon vivant.
Mmh. » Ouais.
Voilà. Donc,
rappelons que Nantes a perdu face au PSG hier soir. Quand
oui,
même.
Avec. Alors cette question, je le précise, n'est pas dans le quiz, mais un geste de Tony Chaperon qui restera, je pense,
dans les
annales du football, je pense. Hein. Deuxième question, messieurs, 27 tirs mais 0 but.
27
tirs mais 0 but.
Est-ce que c'est la stat du TFC hier face à Saint-Etienne?
Non.
Ils n'ont pas tiré autant, mais ils ont tiré. En tout cas, c'est pas Saint-Etienne, parce que 27 tirs, 0 but, le Real.
Exactement, Xavier. C'est la statistique du Real samedi contre Villarreal. Les hommes de Zizou ont été battus par le sous-marin jaune à domicile. Et ce n'est pas faute d'avoir dominé. Le gardien Sergio Asenjo ainsi que ses poteaux ont repoussé toutes les tentatives madrilènes. Voilà, donc je pense qu'on prend pas de risque si on dit que pour le titre c'est terminé. Pour les Madrilènes, ça risque d'être un peu.
Je pense que 19 points là, c'est comme monter l'Himalaya en tongue. Hein, si tu veux, tu ne rattraperas pas.
Messieurs, un partout. Troisième question, à une barre du but de l'année.
Ah, c'est Thauvin.
Ah, il a été plus rapide. Il a été plus rapide. C'est un lob tenté par Florian Thauvin à quelques minutes de la fin du match. Lili Marseille a tenté un lob de presque 50 mètres et le ballon a heurté la barre transversale avant de rebondir. Vraiment, pour le coup, vraiment devant la ligne de but. Vraiment, parce que des fois,
pas de goal line ce week-end.
La goal line pose quelques soucis. Messieurs, quatrième question, 2-1 pour Baptiste. Pourquoi Neymar a-t-il posé un crampon sur le front
pour la
célébrer
bière.
Son pénalty
oui, pour fêter son collègue qui fait ça avec une bière. Alors,
exactement, c'est pour rendre hommage
je sais pas pourquoi il fait ça avec
à un de ses amis dont c'était
j'aurais dit que c'était pour l'équipementier, moi, mais pas du tout.
Non, pas
Joao
du tout.
Celso Moaes est coutumé du fait, c'est mais ça. Avec des verres de bière. Neymar a donc fait avec les moyens du bord pour saluer un de ses copains.
Plus facile avec la chaussure
qu'avec un verre de bière. Je pense. Cinquième question. Messieurs, Benoît Millot est-il vraiment Gilbert Montagnier ?
Qui c'est Benoît Millot ?
Benoît Millot, c'est un arbitre.
C'est un arbitre.
Ah ouais ? J'ai eu problème avec les arbitres. Ah, est-il vraiment... Ah, parce qu'il n'a pas vu quelque chose.
Voilà. Mais c'est donc, par rapport à ce qui s'est passé en...
c'était lors de quel match ?
Coupe de la Ligue. C'est par rapport à ce qui s'est passé en Coupe de la Ligue cette semaine. Enfin, la semaine dernière,
coupe de
pour
la
le
Ligue,
coup.
Cette semaine. C'était sur quel match ?
Ah, le problème, c'est que si je vous donne le match, vous allez trouver le. C'est sur Twitter, ça s'est passé sur Twitter.
Et alors, j'ai pas du tout suivi la Coupe de la Ligue, franchement. Ouais. La Coupe de la Ligue, en plus en semaine.
Oui.
Champion du monde. non, c'est pas un truc avec Amiens, non. Il y avait pas.
Non,
c'était pas un match.
Non,
avec
vous voyez pas. Je vous donne la réponse. C'est le TFC qui a répondu à un tweet comparant l'arbitre de son quart de finale au célèbre chanteur aveugle. Le club a ainsi écrit : s'il est aussi bon ambianceur, on lui pardonnerait presque. Et les Toulousains reprochent notamment à Benoît Millot de ne pas avoir accordé un penalty flagrant, bien sûr selon le TFC, sur une action litigieuse malgré le recours à la vidéo. Voilà. Donc, d'accord. Pas de points, toujours de partout. Sixième question, messieurs. Trop, c'est trop, désormais, ils feront 100.
L'arrêt de la goal light technologie
oui.
Exactement. Exactement. C'est la LFP qui a décidé de suspendre Goal Control, la société qui offre la goal line technologie en France. Après de nombreuses défaillances et un avertissement lancé par l'instance du football français, la goal line a encore planté.
C'est quand même fou, cette histoire de goal line, parce que. On a très bien vu que bon, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas vibré. Bon, la dernière fois, ils n'ont même pas vu parce que je ne sais pas quoi, il pleuvait ou il y avait du brouillard. Et les types, ils ont décidé qu'il y avait but parce qu'ils ont vu le ballon rentrer à la vidéo. Quoi.
Ouais.
Bah, c'est même pas grâce à la. Je ne comprends pas pourquoi on fait la goal line. Ça coûte un bras, même les deux, cette histoire-là, à la Fédé, enfin à la Ligue. Alors que, ben voilà, on peut le voir à la vidéo direct.
Oui. Soit l'un, soit l'autre. Oui.
Ce qui est assez fantastique, c'est que la France a été le seul championnat à choisir en fait, ce prestataire de service parce qu'il coûtait moins cher. Et que c'est une société allemande, et que même la Bundesliga n'a pas choisi ce prestataire-là, et ils ont choisi Okai, en fait, qui officie aussi dans le tennis, et où ça pose aucun problème. Et dans tous les grands championnats où il y a la Goal Line Technology, c'est Okai, en fait, qui s'occupe de la Goal Line Technology, il y a moins de problèmes.
Et la Ligue 1 va se pencher.
Pour des soucis de coûts, ils ont choisi un autre prestataire.
Enfin, avec la vidéo,
3-2 pour Baptiste, pour le coup. Avec les filles, ils gardent quand même la cote.
Ah, ça, c'est. Oh putain. Avec les filles, ils gardent la cote. C'est. Qui a dit c'est une coupe de cheveux, là, d'un joueur.
Non, c'est. Non. C'est. Ils gardent malgré tout.
Est-ce que c'est pas à propos de Neymar ?
Non.
Non.
Mais là, je vais vous donner un gros indice. C'est par rapport à quelqu'un qui joue dans le club de Neymar.
Adrien
Rabiot ?
Non, c'est Pastore.
Non.
Non, Rabiot peut-être
non, c'est.
Pensez à l'intitulé, il garde. Bon, quand même, il garde quand même la cote.
Atem Ben Arfa
oui.
Par rapport à la Miss France.
Par rapport à la Miss
voilà. Il a rencontré Iris Mittenaere. Et autant dire que le joueur du PSG ne l'a
pas. Est-ce que c'est vrai ça
alors ? Indifférente, comme le confie un témoin de la scène. Quand elle a vu entrer Atem Ben Arfa, son visage s'est soudain illuminé. Voilà. Alors 2018 pourrait malgré tout très bien commencer pour. Pour l'ancien lyonnais, voilà, pour qui ça
fait mauve. Ouais.
Je pense qu'il a d'autres problèmes.
Il a d'autres problèmes, mais bon.
Enfin, moi, j'aimerais avoir ces problèmes-là quand même,
oui,
hein,
voilà,
parce que
voilà,
bon, il est sur le banc à 400 000 par mois plus Miss Univers quand même. Bon, il est plus malheureux.
On peut relativiser, c'est clair. C'est clair. 4-2 pour Baptiste. C'est la huitième question, donc autant
je
dire
m'envole.
Que si notre invité marque le point, ce
on
sera
pas loin,
une
hein.
victoire. Je suis le troisième joueur à passer le cap des 20 buts en Première Ligue durant 4 saisons consécutives.
Qui Kane.
Oui, voilà, Harry Kane. Thierry Henry a réussi pareille performance durant 5
il
saisons.
Il y a 4, 94 buts.
98. L'attaquant anglais est devenu le meilleur buteur de Tottenham
de l'année 2017 aussi.
En première ligue. Oui, exactement. C'est dommage, elle est tombée la semaine dernière, cette question. 4-3, il reste deux questions, messieurs. Et on reste en première ligue où l'invincible Manchester City est tombé à Liverpool.
Oui, 4-3.
Mais c'était qui la dernière équipe à les avoir fait tomber en championnat ?
Oula. Liverpool ?
Non.
Est-ce que c'était Chelsea ?
Oui, c'était Chelsea. Le 5 avril dernier, une victoire 2-1. Tu me diras, une victoire du coup pour...
Oui, j'allais dire, comment ils appellent Tottenham.
Pour Baptiste, 5-3. Donc c'était le 5 avril dernier, une victoire de 2-1. Après quoi, Manchester City a réalisé une série de 30 matchs sans défaite, stoppé hier à Anfield, malgré un comeback. Hein, ils ont marqué à la 86 et 90e. Il y a une
10 minutes,
tête,
je crois, en 10 minutes, ouais. Il y a eu 10 minutes de folie.
Il y a une dernière tête d'Aguero qui peut faire égaliser City, mais pour le coup, Liverpool, habitué aux grands exploits, on a fait un dernier. Bon,
il reste
une question, on va la faire pour l'honneur. Voilà. Messieurs, si je vous dis 5 mai 2007, c'est par rapport à une série, une série qui est tombée hier soir.
En première ligue toujours ?
Non.
C'est un truc de Ligue des Champions, ça ?
Non.
Non, non. La Coupe d'Europe, 5 mai 2007 ?
Je l'ai. J'ai vu le match en plus. Ça fait 13 ans. C'est pas avec
10,
ça là
10 pour le coup. 5 mai 2007. Non,
c'est pas ça là que j'ai alors.
C'est par rapport à un résultat qu'il y a eu hier et qui ne s'était plus produit.
C'est le Barça.
Oui, voilà. Oui, c'est la dernière victoire du Barça en
qui
championnat.
Qui a battu la Real Sociedad. Un coup franc extraordinaire
de Lionel Messi.
Ils ont battu la Real Sociedad.
Ah, non, Anoeta. 4-2. Voilà.
La dernière fois, c'était
5 mai 2007. D'accord. Voilà. Ils ont gagné l'an dernier en Coupe du Roi, mais en championnat, la dernière fois, c'était le 5 mai 2007.
Avec... Petite info, à la Real Sociedad, un ancien joueur du centre de formation du TEF et de Bayonne qui joue à la Real Sociedad, c'est Kevin Rodriguez, voilà, qui était au TEF.
Voilà, et bien en tout cas, malheureusement pour lui, il s'est incliné. Donc contre,
encore d'un point.
Encore, d'un point, encore. Là, une remontée
ça, c'est
aussi.
Il faut travailler encore.
Ben Arfa, il m'a plombé.
C'est un thème, hein, c'est toujours lui. Bon, merci beaucoup, messieurs. Merci, Baptiste, d'être venu parler de ce tournoi. L'IFC, on le rappelle, hein, qui aura lieu les 27 et 28 janvier prochains. C'est au Petit Palais des Sports de Toulouse. C'est la deuxième édition. Donc venez nombreux. Merci, Xavier, d'avoir. D'avoir été
à lundi
là.
Prochain.
Merci beaucoup Jean-Loup pour la réalisation. Quant à moi, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à lundi prochain pour la décima d'Oxyfoot. Bonne soirée.
You earned. Don't say another thing. Don't say a word.